Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, mais aussi d'opinions. À partir de 13h, comme tous les jours, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas, si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mercredi 17 août, à ces pluies torrentielles tout d'abord. La foudre, la grêle, les éléments se déchaînent, notamment sur le sud du pays. À Marseille, le tunnel du Vieux-Port est carrément sous l'eau, vous allez l'entendre. Ce sont désormais 8 départements, hein, Claire Delorme, qui sont en alerte orange aux orages. Bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour à tous. Il s'agit en effet du pourtour méditerranéen et de la Normandie, où après une courte accalmie, bien les orages reprennent de plus belle, avec encore des pluies diluviennes viennent à prévoir jusqu'à 100 litres d'eau mètre carré, l'équivalent d'un baril d'essence en seulement l'espace de quelques heures. Donc ça concerne les départements en vigilance orange, mais attention, hein, le reste du pays aussi n'est pas à l'abri d'un violent orage cet après-midi. Je rappelle que 88 départements sont placés en vigilance jaune, plus l'Andorre, donc ça correspond à toute la France.
Faites bien de le rappeler, Claire, vigilance jaune, ça veut bien dire ce que ça veut dire, attention.
Ah oui, non seulement attention, la vigilance est vraiment de mise, nous ne sommes pas à l'abri de violents orages pour cet après-midi.
Vous restez avec nous évidemment, Claire, concernant la météo, canicule, orage violent, ces phénomènes météorologiques à répétition vous inquiètent-ils? C'est la question du jour sur RTL.fr. Vous répondez oui à 48%, non à 46%. Dans le reste de l'actualité, à Colmar, deux jeunes toujours activement recherchés par la police après le meurtre d'un homme de 27 ans dimanche. Ils ont été identifiés et sont déjà connus des services de police. Un jeu dangereux qui consiste à éblouir les pilotes d'avion avec un laser au moment de l'atterrissage. En une seule semaine, 3 signalements ont été effectués chez Air France. À chaque fois, il y a dépôt de plainte. Et puis, qui veut encore de Ronaldo ? Plus grand monde, visiblement. L'attaquant star de Manchester a du mal à trouver un nouveau club. Eric Silvestro nous explique tout.
RTL Midi.
Dans beaucoup de communes, on assiste actuellement à un déluge. Des scènes à peine croyables, notamment dans le sud-est du pays. Et sans attendre, direction Marseille, où l'on vous retrouve. Hugo Hamelin, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Le Vieux-Port est carrément inondé.
Eh oui, opération de nettoyage ce midi sur le Vieux-Port après un débordement entre 5 et 6 heures du matin. La canebière avait les pieds dans l'eau. Mireille travaille à l'OM Café.
Mais ce matin, on est arrivé, tout a été inondé. Alors moi, je suis chez l'OM Café aussi, soleil, mais on est tous inondés dans les quartiers. Nous avons pour la journée, parce qu'il n'y a pas que là, hein, et c'est beaucoup de travail. C'est des journées perdues, ça c'est fini, parce que là, avec l'odeur seulement, comment ils vont faire pour supporter les clients?
De fortes odeurs d'égout remontées à la surface par les intempéries. Même chose chez Abdoul qui tient un restaurant et nettoie sa terrasse au Karcher.
Ce matin en arrivant, j'ai trouvé un peu de tout, des gobelets, des détritus un peu de partout. Il y a beaucoup d'odeurs qui ont remonté à certains endroits. Quai de Rive-Neuve, il y a beaucoup d'odeurs d'égout qui sont remontées.
C'est la grande crainte à Marseille que les déchets balayés par l'orage terminent dans la mer. D'ailleurs, toutes les plages de la cité phocéenne ont été fermées d'office ce matin en attendant de faire des prélèvements, alors qu'un nouvel épisode orageux est attendu sur les Bouches-du-Rhône cet après-midi.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et toujours pour RTL, Vincent Serrano, vous êtes à Aigues-Mortes dans le Gard. Bonjour à vous.
Bonjour.
L'épisode a été bref, Vincent, mais brutal.
Oui, c'est toute la zone autour de Montpellier qui a été recouverte hier soir par un immense nuage noir accompagné d'orages incessants, des flashs apparaissant toutes les 5-10 secondes. Mais la pluie, même si elle est tombée vite, 100 litres au mètre carré par endroit au nord de la métropole, elle n'a pas vraiment eu le temps de s'installer, à part dans quelques rues du Gros du Roi ou ici à Aigues-Mortes, où c'est surtout la grêle qui a marqué les esprits. Quelques pare-brises de voitures, des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong, m'a expliqué ce matin Juliette, qui tient un commerce dans le centre-ville.
Effrayant, très bruyant. Et très violent. Beaucoup de pluie, du tonnerre de partout. On ne savait pas si c'était loin, si c'était près. De la grêle, de la petite, de la grosse, plus dans les vignes. Ils ont peur pour leurs vignes. Parce que c'est quand même impressionnant. Les rues s'inondent facilement. Il y a encore des traces avec les branches d'arbres un peu partout. Ça rigole.
Épisode
pas.
Bref, quelques heures qui n'aura pas fait de victimes. Mais les rafales de vent ont déraciné un arbre au Gros du Roi où les agents municipaux continuent de déblayer les routes et dégager les branchages coincés dans les évacuations d'eau, et il faut faire vite. Le ciel est ici en train de s'assombrir. Une nouvelle masse orageuse devrait arriver rapidement et s'installer cette fois-ci pour plusieurs heures.
Vincent Serrano en direct du Gard à Aigues-Mortes pour RTL. Sachez que les intempéries ont fait 2 victimes la nuit. nuit dernière en Corrèze. Un couple de campeurs a été grièvement blessé dans un camping de Collonges, hein, la Rouge, après la chute d'un arbre sur une caravane et sur une tente. Le Var également très touché par les intempéries. Nous sommes avec le maire d'hier, Jean-Pierre Girand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Monsieur le maire, quelle est la situation actuellement dans votre ville ?
Ben, la situation s'est calmée du point de vue de la météo, même si on attend des reprises d'orages dans l'après-midi. Mais on a connu un début de matinée extrêmement violent, avec notamment à 7h du matin un orage de grêle qui a créé des dégâts considérables, notamment dans les domaines agricoles et horticoles.
Oui, quels dégâts justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a également des dégâts dans la ville ?
Alors il y a des dégâts dans la ville, il y a quelques commerces et un peu de mairies inondées, mais ce sont surtout les serres des horticulteurs qui ont souffert, qui ont été largement détruites. Certains ont perdu 40% de leur exploitation. Les maraîchers ont vu toute leur culture ravagée et ont pratiquement, pour certains, tout perdu. Donc c'est une situation qui est difficile pour une ville où l'agriculture et l'horticulture sont si importantes.
La violence de ces intempéries, c'est une surprise. Vous aviez fait de la prévention hier ?
Ah ben on avait bien entendu fait en sorte que tous les abattoirs soient libérés, que les ruisseaux soient assainis. Mais quand il y a une telle violence, on ne peut pas résister. Et bien entendu, ça tombe directement sur les objectifs, c'est-à-dire sur les serres. Donc tout ce qui convient de faire maintenant, c'est d'être solidaire avec les agriculteurs et les horticulteurs. Je vais demander dès cet après-midi le classement en catastrophe naturelle et indemnité agricole. Et puis nous mettons à leur disposition des bennes pour pouvoir récupérer l'ensemble des vers qui sont désormais cassés, qui jonchent leur exploitation.
Oui, sachant qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir faire ces travaux de déblaiement tout de suite, puisqu'un autre épisode orageux est attendu hein, chez vous cet après-midi, Claire nous le disait. Là aussi, prévention, surveillance, vigilance.
Mais si vous voulez, l'ensemble du personnel communal est sur le terrain et en tous les cas en alerte. La protection civile, le comité des feux de forêt, donc tout le monde est prêt à intervenir. Les routes qui doivent être barrées le sont, puisque parfois il y avait sur certains ponts presque un mètre d'eau, mais il faudra attendre que l'épisode passe pour juger de l'étendue des dégâts.
Vous aviez déjà eu un épisode extrêmement compliqué en 2014, hier. Est-ce que des mesures avaient été prises et quoi très concrètement ?
Mais les mesures, si vous voulez, principales sont les mesures qui concernent les fleuves, puisqu'on a deux fleuves qui traversent la commune et on fait en sorte d'améliorer les berges, l'écoulement et de mettre en place des digues de protection. Là, on a une grosse amélioration, mais quand il y a des phénomènes de ce type, des phénomènes de ruissellement ne peuvent pas être totalement dominés. Alors, bien sûr, il y a les réseaux d'écoulement des eaux pluviales, mais une fois qu'on les a curés, on ne peut pas les modifier. Donc, on est obligé de subir malheureusement un peu ce genre d'intempéries qui sont de plus en plus récurrentes.
Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Jean-Pierre Girand, maire de la commune d'hier, dans le Var. Merci infiniment d'avoir été l'invité de RTL Midi. Claire, vous nous le disiez en titre, hein, 8 départements sont désormais en vigilance orange. Il y a également de très très nombreux départements en vigilance jaune. Vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre les deux ?
Alors déjà, il ne faut pas comparer par exemple une vigilance canicule avec une vigilance orage, hein, c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, pour la vigilance orage, eh bien, elle va être définie en fonction de l'intensité, de la sévérité orageuse. Et donc cette décision, eh bien, elle est prise par le chef prévisionniste de chaque région et ensuite validée par le chef prévisionniste national basé à Toulouse. Et donc ensuite, une fois qu'ils ont déterminé si c'était une vigilance jaune ou orange, eh bien, la différence va se faire au niveau de la mobilisation des différents services par le gouvernement, que ça peut être des services de santé ou des services par exemple publics comme les pompiers justement pour pouvoir être sur place le plus vite possible.
Alors hier, nous avons été nombreux à être surpris hein, par la violence des orages à Paris. Pourquoi Paris par exemple n'était pas en alerte orange ?
Tout simplement parce que à ce niveau-là en fait, les orages étaient beaucoup plus désorganisés, alors qu'en effet ils étaient beaucoup plus intenses et prévus justement vers la zone méditerranéenne, mais aussi vers d'autres régions. Et donc, c'est pour ça, mais je l'ai bien précisé hier, ce n'est pas parce que c'était en vigilance jaune qu'on n'était pas justement à l'abri d'un orage localement fort. Donc, justement, ce sont encore des orages qu'on ne peut pas encore anticiper. Mais en tout cas, il faut, en tout cas, on ne peut le savoir que quelques heures avant.
Et faire attention, bien se dire que vigilance jaune veut dire quelque chose et il y a vigilance.
Ah oui, absolument. Le code de couleur est très important.
Merci beaucoup Claire Delorme. RTL, midi 40. À Colmar, la police est toujours à la recherche de deux individus. Ils sont soupçonnés d'avoir abattu un homme de 27 ans dimanche. Un homme qui leur demandait de faire moins de bruit avec leur scooter. Bonjour Yannick Collin.
Bonjour.
Vous suivez cette enquête pour RTL, Yannick. La traque se poursuit.
Oui, les enquêteurs ont parfaitement identifié les deux suspects. Pour l'un d'entre eux, au moins, on sait que c'est un mineur. Il est déjà connu des services de police à Colmar, notamment pour trafic de stupéfiants. Les suspects ont pris la fuite après le drame. Ils sont activement recherchés par la police judiciaire au moment où on se parle. Les enquêteurs qui attendent également dans les prochaines heures plusieurs rapports de la police scientifique. D'abord, l'expertise balistique pour savoir si un ou plusieurs coups de feu ont été tirés. Il y a une incertitude à ce niveau-là au niveau des témoins. Ensuite, les analyses de téléphonie qui permettront de déterminer s'il y a d'autres complices que ceux qui ont déjà été identifiés par les caméras de vidéosurveillance qui ont filmé toute la scène. L'expertise médico-légale, enfin, doit être rendue dans les prochaines heures. Pour les proches d'Abdoul, la victime que j'ai pu rencontrer ce matin, eh bien, ils attendent de pouvoir récupérer son corps. Il sera rapatrié en Afghanistan auprès de sa femme et de ses quatre enfants.
Merci beaucoup Yannick Collin, direct de Colmar pour RTL. Et hier soir, c'est à Marseille vers 21h qu'un jeune homme de 19 ans qui pratiquait du rodéo urbain avec sa nouvelle moto a percuté un poteau électrique de plein fouet. Malgré le port du casque, il est décédé de ses blessures. S'amuser à viser des pilotes de ligne avec de puissants lasers, c'est très dangereux. C'est passible de 5 ans de prison. On en parle dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
S'amuser à éblouir les pilotes de ligne avec un puissant laser au moment de l'atterrissage, cela fait partie des jeux stupides à la mode. Un individu a d'ailleurs été interpellé à Roissy la semaine dernière. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, 18 000 euros d'amende. Le phénomène est en vogue à tel point, Arnaud Touche, que cela fait désormais partie de la formation des pilotes.
Absolument, c'est une obligation. Ce risque d'attaque laser est parfaitement intégré à la formation. Pour faire face, ils disposent en fait de lunettes fumées assez importantes à mettre sur le nez dès qu'un laser est détecté. Elles permettent d'éviter les rayons et de pouvoir continuer à voir les instruments de vol, évidemment, et donc avoir un vol en toute sécurité. Mais là où c'est effectivement le plus dangereux, c'est quand même dans les phases d'atterrissage. Les pilotes sont parfois amenés à remettre les gaz ou bien changer de trajectoire en vol. Là encore, ces manœuvres sont acquises en simulateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple chez Air France, il y a 3 signalements d'éblouissement par laser chaque semaine, mais que jamais il n'y a eu de grave problème depuis 10 ans, heureusement, justement grâce à ces formations. Et bien entendu, la compagnie nationale n'est pas visée spécifiquement, mais ce sont les avions en général. Et systématiquement, les pilotes déposent plainte à l'arrivée et tentent de donner la position du laser au contrôle aérien. Et le phénomène n'est pas limité à la France. Aux États-Unis, l'année dernière, il y a eu 9723 attaques laser, soit presque 27 signalements par jour. Un chiffre record depuis 2016.
Merci beaucoup Arnaud, notre spécialiste de l'aérien. Nous sommes avec Guillaume Schmid, commandant de bord sur Airbus A320 chez Air France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avez-vous été victime, vous, de ce phénomène ?
Alors oui, on en est victime. Tous les pilotes, je pense, en ont été victimes au moins une fois. Ça arrive sur de nombreux aéroports à travers le monde entier et dans certaines zones plus spécifiquement que d'autres, oui.
Qu'est-ce qui se passe très concrètement dans le cockpit quand vous êtes visé ?
Alors, on voit des flashs verts apparaître dans le cockpit et consigne nous est donnée de ne surtout pas chercher à localiser la source de l'émission puisque ce sont vraiment des armes. Ce sont des choses qui sont très puissantes et qui sont susceptibles d'endommager durablement votre rétine. Donc, notre consigne est de poursuivre le vol, voire de refaire une remise de gaz si ça s'avère nécessaire.
Arnaud nous le disait, hein, vous êtes formé pour savoir que faire lorsque vous êtes visé.
Oui, tout à fait. Donc, on peut essayer d'opacifier nos vitres pour essayer de se protéger au maximum. Nous avons également des lunettes qui sont censé réduire les dommages que peuvent causer ces rayons sur nos rétines. La seule solution possible, c'est effectivement la remise de gaz, oui.
Donc ça veut dire que la remise de gaz, c'est lorsque vous atterrissez, par exemple, que vous êtes visé par ça, il est impossible pour vous de correctement atterrir ?
Quand on est trop près du sol et qu'un atterrissage en sécurité n'est plus possible à cause des perturbations liées à ces illuminations, effectivement, c'est la solution qui permet de préserver au mieux la sécurité du vol, oui.
Ça veut dire que viser un avion avec un laser, on met en danger le vol, les passagers ?
Ah oui, je pense que les personnes qui font ça sont conscientes du mal qu'elles peuvent faire, encore une fois. Donc je pense que qu'il s'agit là de terrorisme low cost. Hein, et je pense que l'expression n'est pas exagérée. C'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui nous préoccupe bien sûr pour notre santé en premier lieu, mais aussi pour la sécurité des vols.
Guillaume Schmidt, vous nous disiez que c'est un phénomène que vous remarquez partout dans le monde.
Oui, alors partout dans le monde, il y a des terrains qui sont plus susceptibles d'être touchés par ces rayons. D'ailleurs, on est au courant, hein, quand on y va, ça fait partie des informations qui nous sont données et qui sont spécifiques à certains aéroports, qui sont spécifiques aussi à certaines zones. Sur la région parisienne, on sait que ces illuminations viennent principalement de Seine-Saint-Denis quand on la survole. Donc voilà, dans certaines configurations de pistes et dans certains cas de figure, on s'en méfie plus que d'autres. Et ces risques-là font l'objet d'un briefing spécifique quand on se rend sur ces terrains. Oui. Mais bon, maintenant, tous les endroits du monde sont susceptibles d'être touchés par ça. Ce qui rend vraiment difficile ce phénomène, c'est le fait que les personnes sont difficilement appréhendables, en fait.
Oui, c'est voilà, ce que j'allais vous dire, puisque la RTL le révélait, hein, un individu a été interpellé la semaine dernière, mais c'est quelque chose de très rare.
Oui, alors là, il s'agissait vraiment d'un coup de chance, j'allais dire, puisque le pilote avait signalé un rayon laser et il se trouve que sur zone se trouvait un hélicoptère qui a pu appréhender, localiser et appréhender assez facilement la personne.
Et parmi les consignes également que vous avez, c'est dépôt de plainte systématique ?
Effectivement, dépôt de plainte systématique. La gendarmerie du transport aérien nous facilite un petit peu les choses en se déplaçant maintenant à l'avion pour nous faciliter la plainte et améliorer le suivi de ce genre d'événement qui est pris très au sérieux par les compagnies aériennes, par les pilotes bien évidemment, mais je pense aussi dans tout le transport aérien. Oui.
Alors, on va rassurer quand même nos auditeurs, hein, Guillaume Schmidt, il n'y a jamais eu d'incident majeur, ça n'a jamais provoqué de grosses catastrophes. Hein.
Heureusement, ça n'a pas provoqué de grosses catastrophes. La raison en est simple, c'est parce que nous sommes deux dans le cockpit. Et donc, il y a quand même peu de chances que les quatre yeux des pilotes soient touchés simultanément. Mais en revanche, des pilotes ont déjà subi des dommages irréversibles à la rétine. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup.
Et c'est un phénomène qui est apparu récemment ou cela fait des années que ça dure ?
Bon, c'est un phénomène qui est apparu il y a 10-15 ans et qui tend à se développer de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est la volonté de toucher les avions par ce biais-là, qui est quand même quelque chose de très simple. Hein. Il faut assez peu de matériel. Ou si parce que ces technologies sont plus facilement accessibles sur Internet. J'en ignore la cause, mais c'est un phénomène qui se répand, oui.
Merci beaucoup, Guillaume Schmidt, d'avoir été l'invité de RTL Midi.
Merci.
Je rappelle que vous êtes commandant de bord et vice-président du syndicat national des pilotes de ligne Air France Transavia. RTL midi 48, la suite du procès de Benjamin Mendy à Chester en Angleterre. Le footballeur français est accusé de plusieurs viols. C'est désormais aux 7 victimes présumées de prendre la parole. L'une d'entre elles est d'ailleurs en train d'expliquer ce qu'elle a vécu, Marie Billon.
Oui, c'est effectivement le premier des témoignages qui doit être diffusé dans les prochaines minutes. L'audience a finalement été suspendue juste avant la diffusion de cette vidéo parce qu'en fait, trois des victimes ne sont pas senties de venir dans la salle d'audience, là où se trouve actuellement Benjamin Mendy. Ce témoignage, donc le premier, a donc été enregistré il y a quelques mois par la police dans un hôtel du sud de l'Angleterre. Et c'est aussi dans un hôtel que la victime présumée dit avoir été agressée sexuellement par le footballeur. Il serait rentré dans sa chambre alors qu'elle prenait sa douche et aurait commencé à se toucher devant elle. Elle lui aurait demandé de partir et aurait tenté de se couvrir d'une serviette et puis de s'habiller. Mais l'accusé l'en aurait empêché. Il aurait ensuite tenté de la violer sur le lit. Mais elle se serait vigoureusement débattue. À un moment, le footballeur lui aurait demandé si elle avait peur, car elle ne devrait pas avoir peur, aurait-il dit. Le procureur a précisé que la jeune femme avait hésité avant de porter plainte, ayant peur de l'attention que lui porteraient alors les médias. Mais elle est allée voir la police quand l'affaire a commencé à éclater. Alors pour l'instant et pendant encore plusieurs jours, c'est l'accusation qui a la parole. La défense n'interviendra que plus tard. Le procès durera jusqu'à la fin de l'année.
Marie Billon, la correspondante de RTL en Grande-Bretagne. Dans une semaine, tout pile, à cette heure-là, on revient en France, le gouvernement aura fait sa rentrée, le premier conseil des ministres aura eu lieu, présidé évidemment par Emmanuel Macron. À 7 jours de la reprise, Marie Mollet, quels sont les dossiers qui attendent l'exécutif ?
Eh bien, au-delà pile, les dossiers énergétiques. Comment assurer l'approvisionnement en gaz et en électricité cet hiver ? C'est cette question qui va occuper le chef de l'État dès la rentrée. L'exécutif doit par ailleurs présenter le projet de loi d'urgence sur les énergies renouvelables en septembre, censé permettre de rattraper le retard de la France sur le secteur. Autre chantier, le lancement du Conseil national de la refondation, une nouvelle instance souhaitée par Emmanuel Macron, supposée plancher sur les grands chantiers à venir en réunissant citoyens, syndicats, élus. Mais les contours du CNR restent flous, taxés d'être un énième gadget par les oppositions. LR et le RN refusent déjà d'y participer. Le mois de septembre sera aussi consacré à tenter de trouver des accords sur les grands textes à venir avant qu'ils n'arrivent au Parlement, pour s'épargner certains bras de fer au Palais Bourbon, sur l'assurance chômage, sur l'immigration ou le projet de loi de finances. Bref, une rentrée chargée et pour la première fois, Emmanuel Macron ne sera plus le seul à donner le la de l'agenda qu'il devra partager avec le Parlement et les groupes d'opposition.
Marie Mollet du service politique de RTL. Merci Marie. C'est une femme qui va présider le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Vous savez, ce comité qui succède au conseil scientifique. L'immunologue Brigitte Autran et son équipe seront chargées d'orienter l'action du gouvernement face à la pandémie de Covid. Le numéro 1 français de tennis, Gaël Monfils, est blessé. Il annonce à l'instant sur Twitter qu'il ne jouera pas l'US Open. Le tournoi commence le 29 août prochain à New York. Cristiano Ronaldo, lui, veut jouer la Ligue des Champions et pour cela donc quitter Manchester United. Mais problème, il semble loin, très loin, Eric Silvestro, le temps où les clubs s'arrachaient la star du football.
Effectivement, Agnès, le Portugais n'est pas encore désespéré au point de lancer les petites annonces de cri-cri, mais annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait compilé dans un carnet toutes les fake news sur son été compliqué. À 37 ans, il a beau ne pas être atteint de DMLA, la dégénérescence musculaire liée à l'âge. Rares sont les clubs à vouloir miser sur un presque quadra, d'autant que fort de ses 24 buts en 39 matchs la saison passée, Ronaldo et son agent Jorge Mendes conservent des prétentions salariales élevées aux alentours de 20 millions d'euros par an. Les pays du Golfe sont prêts à lui faire un pont d'or, mais à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar, CR7 veut gonfler son record de 141 buts en Ligue des Champions, une compétition qu'il n'a plus remportée depuis son départ du Real Madrid en 2018. Reste le principal problème, comment faire jouer son équipe avec Ronaldo ? Même performant, il a fini par être isolé dans les vestiaires de la Juve ou de Manchester United. Et aujourd'hui, le PSG, le Bayern, Chelsea ou l'Atlético, les destinations possibles, mises sur des stratégies différentes, à moins d'un prix cassé et d'énormes concessions dans les derniers jours du mercato.
Merci beaucoup Eric Silvestro du service des sports de RTL. Restez avec nous Eric, je crois que vous avez pas mal de coups de fil au 32-10 pour parler de Ronaldo justement. Accueillir des randonneurs à 2500 mètres d'altitude, leur préparer le repas, le petit-déj, se charger de les réveiller de façon très matinale. Notre journaliste Serge Puyot s'est transformé en gardien de refuge. C'est dans un instant sur RTL.
RTL Midi. RTL en immersion.
C'est un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de RTL qui testent un nouveau métier le temps d'une journée. Ce midi, donc, Serge Puyot, notre correspondant dans les Alpes, devient gardien de refuge en montagne. Ces refuges qui accueillent pendant l'été randonneurs et alpinistes. Bonjour Serge.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu au refuge de l'Étendard, dans le massif des Grandes Rousses, en Savoie, où c'est une femme, Fabienne Gonin, qui vous a fait partager sa passion pour son métier.
Oui, Fabienne qui travaille en famille dans ce refuge de 70 places, puisqu'il y a à ses côtés...
Donc Pilou, mon mari, Florane, ma deuxième fille, et Colline, la première fille, qui est aussi gardienne. Et moi, c'est Fabienne.
Alors, nous sommes à 2430 mètres d'altitude, face aux aiguilles de l'Argentière et près de magnifiques lacs de montagne. Et en fin d'après-midi, Fabienne accueille les randonneurs qui arrivent après des heures de marche, comme Jacqueline, 76 ans.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Bienvenue au refuge.
Je vous remercie, je suis contente de découvrir la région.
À 2400 mètres de dénivelé à 76 ans, il faut avoir une bonne pêche. Ouais.
Oui.
Bienvenue dans le refuge.
Et à 19h, c'est l'heure du repas. Je dois passer en cuisine pour aider Fabienne à faire une succulente soupe.
Ça c'est la soupe donc de lentilles.
Donc moi je vais remuer la soupe là.
Ouais, voilà.
C'est ça mon boulot du soir ?
Voilà, c'est pour éviter que ça brûle au fond.
D'accord, donc je remets bien la soupe.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Je passe ensuite au service.
Alors messieurs, dames, je suis journaliste à RTL. Et je viens vous servir donc de la salade bio avec de la tomme de Savoie, de la tomme de Maurienne.
Merci. C'était super. On se régale. Vraiment, on se croirait dans un grand restaurant, c'est formidable.
Donc vous me donnez un bon point là.
Ah oui, 10 sur 10 direct.
Et après le service, c'est la plonge avec Maïlis.
Pas mal d'assiettes ce soir, une soixantaine, donc on peut y aller. Hein.
Voilà, un coup d'éponge. Et ça marche.
Voilà, j'ai quand même le temps d'admirer le coucher de soleil avec Fabienne, notre gardienne.
Tous les soirs, on se régale. Ouais, c'est grandiose. Des fois, c'est rose, des fois, c'est orange, des fois, c'est plus jaune, des fois, c'est bleu. Enfin, on a vraiment toutes les couleurs tous les soirs qui explosent devant les fenêtres du refuge.
Et Serge, la nuit va être courte hein, pour vous.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, car à 4 heures du matin, je suis chargé du réveil d'un groupe d'adolescents de la région parisienne qui doit partir pour une randonnée glaciaire avec leur guide. J'arrive donc dans le dortoir.
Allez, là, c'est 4 heures, c'est le réveil pour tout le monde. Là. C'est un peu dur le réveil, là.
Écoutez, à 4 heures du mat, quand on s'est couché à 22 heures hier soir, oui, c'est sûr que c'est un peu sportif, mais bon, c'est le jeu.
C'est toujours un peu dur, mais comme on sait qu'il y a une super expérience qui nous attend, on s'en fiche.
Et je prépare le petit déjeuner avec Florane.
Alors, on a toutes les boissons chaudes, classiques, café, thé, chocolat chaud, lait chaud, café au lait, du beurre, du pain, des biscottes, des galettes, qui ne partent pas le ventre vide.
En quoi je peux vous aider aujourd'hui si je suis gardien ?
Allez, m'aider à servir les boissons chaudes.
Voilà, monsieur, c'est moi qui sers le café aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup le café le matin, merci.
Vous êtes bien réveillé, ça va ?
Moyen, moyen.
J'assiste ensuite au départ du groupe sous la direction de Ludo, le guide.
Bonjour, chers enfants.
Bonjour, Ludo.
Quel plaisir de vous voir sourire dans cette nuit étoilée. Toute l'équipe, vous êtes prêts ?
Oui.
Bon, on y va, suivez-moi.
Merci, bonne balade.
Bon alors Serge, on l'a vu, on l'a entendu, c'est un métier exigeant, mais vous êtes prêt à franchir le pas pour devenir gardien de refuge.
Ah oui, j'ai été conquis et j'en ai d'ailleurs parlé avec Fabienne sur la terrasse du refuge au moment du lever du soleil.
Le soleil se lève à l'est, hein, du côté des aiguilles rousses. On en profite dès le matin. Une fois que tous les clients sont partis, nous, on se met en terrasse, on en profite et on fait notre petit déjeuner au soleil sur notre terrasse du refuge. Et on aime vivre en plein milieu de la montagne.
Donc là, j'ai mis un peu la main à la pâte hein, lors de mon séjour au refuge. Vous me prendriez comme aide gardien, là ?
Ah oui, merci Serge. Ça nous a bien aidé. Oui, oui, on vous prend sans problème.
C'est vrai que c'est un métier fantastique dans la montagne.
Eh bien, on vous embauche quand vous voulez. Vous quittez RTL et vous revenez au refuge de l'étendard. Après, il faut juste voir avec votre employeur s'il est d'accord pour vous libérer pour un été.
Bon, parfait. Alors, j'en parle à mes patrons à RTL. Hein.
Eh bien, on vous attend.
Merci. Oui.
Puis vous en parlez aussi à vos collègues, hein, Serge. Pas sûr qu'on ait envie de vous laisser partir. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce test de gardien de refuge. C'était passionnant à réécouter, évidemment, sur RTL.fr et l'appli RTL, comme tous les autres épisodes. À tout de suite.
RTL Midi.